CITV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de « Bonjour chez vous ». Hier, nous avons parlé de la jeune génération. Eh bien aujourd'hui, nous allons voir ce que nous pouvons apprendre de nos aînés. Et je suis avec deux aînés, Annabelle et Omer.
Parler surtout de toi, je pense.
Je suis choqué.
Pour une
table. Ils sont jeunes, Annabelle. Hein.
Ah, extrêmement jeune.
Apparemment, il y en a un qui se sent concerné et une part, en tout cas.
Je suis jeune, d'ailleurs. Je suis encore très jeune.
Quel âge as-tu, Annabelle?
Eh bien, à vous de me le dire, quel âge vous pensez que
sondage.
J'ai? Ça va faire mal, en fait.
Ça va faire mal.
16 ans.
Peut-être.
Je ne vous demanderai pas de pronostiquer l'âge d'Omer. Non, au cas où.
Je suis très jeune.
Absolument, c'est
très.
Vrai. Nous sommes tous
il
tout
est
à
plus
fait jeune,
jeune. Il est plus jeune que ce que vous pensez.
C'est horrible. En tout cas, Omer, tu t'es mis dans une position d'aîné puisque tu vas faire une rubrique famille. Quand et comment transférer son savoir en tant qu'aîné?
Transférer son savoir sera le mot-clé.
Mm-hmm. Oh, tu vois, ça, c'est une introduction, Annabelle. Ah, prends-en de la graine.
Tu vois, t'es un aîné, je dois apprendre de toi.
Exactement. Aujourd'hui, nous allons voir que nous avons à apprendre de nos aînés et que c'est la raison, entre autres, pour laquelle nous leur devons le respect. Mm-hmm. Mais nous allons voir que c'est un respect mutuel qui doit s'accomplir et pas juste dans un sens. Et on commence donc tout de suite avec Annabelle dans la pensée du jour.
Je crois que le monde irait beaucoup mieux et l'Église aussi si nous pouvions apprendre de nos aînés, s'il y avait ce rapport de transmission, ce rapport entre les générations pour que ce qui a été appris, quelquefois de façon difficile, quelquefois à travers les expériences, les erreurs, puisse être transmis à l'autre génération. Alors lorsqu'on fait partie de cette génération plus jeune, on doit choisir de s'humilier tout simplement, d'avoir une attitude d'humilité, de dire ces personnes-là sont passées par des choses par lesquelles je ne suis pas encore passée. Il y a quelque chose à apprendre. Même s'ils sont plus vieux, leur façon de parler, leur façon de penser, leur façon d'être, ça ne me convient pas, je ne me retrouve pas dans ça. C'est peut-être normal parce que vous êtes d'une génération différente, mais il y a quelque chose à apprendre. Et j'aimerais vous lire dans Proverbe 5 au verset 12, tu diras alors, comment donc ai-je pu détester l'instruction et comment mon cœur a-t-il pu mépriser le reproche? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, donc la voix de ses aînés, la voix de ces personnes plus vieilles que moi, ne pas tendre l'oreille vers ceux qui m'instruisaient? Et j'aimerais vous encourager à ne pas avoir de regrets, que lorsque dans 10 ans, dans 20 ans, vous allez vous dire, mince, si j'avais su, j'aurais dû les écouter, j'aurais dû leur demander, j'aurais dû tendre l'oreille, j'aurais dû saisir ce conseil parce qu'aujourd'hui, je suis à leur place et je comprends pourquoi ils étaient comme ça, mais j'ai négligé leur instruction, j'ai négligé leur conseil parce qu'ils étaient trop vieux, parce qu'ils étaient pas cool, parce qu'ils me cassaient les pieds, parce que c'était des vieux, ils comprenaient rien et moi, je comprenais tout. Et ne pas vous retrouver dans 20 ans dans la même situation, avoir refait les mêmes erreurs. Alors c'est sûr, ils ont leur part à jouer dans la manière de le transmettre, dans cette disposition, mais vous avez aussi votre part à jouer. Est-ce que je suis prêt à écouter au-delà de la forme? Est-ce que j'ai cette attitude, cette disposition qui me dit cette génération a quelque chose à m'apprendre et pas cette attitude d'être auto-remplie, je sais tout mieux que tout le monde, ils ont fait que des erreurs. Et quand bien même cette génération a pu faire des erreurs, ton père a fait des erreurs, ton pasteur a fait des erreurs, ton responsable a fait des erreurs, tu peux faire en sorte aussi que ces erreurs ne soient pas gaspillées en apprenant de ces erreurs. Ces choses-là n'ont pas marché, ces choses-là ont fait du mal, ces choses-là ont divisé peut-être ta famille. Apprends avec humilité de tes erreurs en te disant, Seigneur, permets-moi de ne pas refaire ces mêmes choses. Enseigne-moi à faire de façon différente. Et ces erreurs seront comme des balises, des limites. Ça, on ne peut pas aller de ce côté-là parce qu'on a vu le mal que ça avait fait. Mais on va gaspiller ces erreurs si on est dans le jugement, si on est dans le mépris. Mais si on est dans cette attitude d'humilité, il y aura un enseignement et il y aura une leçon. Alors oui, on peut apprendre de ces aînés qui sont là aujourd'hui. Profitons alors qu'ils sont encore vivants, alors qu'ils sont présents dans nos vies, pour qu'ils puissent nous transmettre leur expérience, qu'ils puissent nous transmettre leurs souvenirs, qu'ils puissent nous transmettre ce qu'ils ont vécu, et que nous, avec le Saint-Esprit, on puisse quelquefois en tirer des leçons si eux ne savent pas comment nous le transmettre exactement, mais demander au Saint-Esprit, regarde, il m'a raconté ça, quelle est la leçon à en tirer? Saint-Esprit, quelle est la leçon à retirer de ce que mes aînés, de ce que mes ancêtres, de ce que l'autre génération a fait, a entendu de toi? Et je crois que le Saint-Esprit va vous permettre d'avoir une oreille attentive à ce que vos aînés diront dorénavant.
Amen, amen. Merci Annabelle. Qu'on le veuille ou non, il y a une transmission qui se fait, en fait, de parents à enfants, d'aînés à plus jeunes. La transmission se fait, qu'on en ait envie ou pas, qu'on en ait conscience ou pas, on le sait, hein, on fonctionne comme ça. Et parfois, en grandissant, on se dit « Ah, je reproduis les mêmes choses que ma mère. Oh, on dirait mon père. » Et c'est agaçant. Mais en fait, quand c'est une transmission qui est reçue volontairement et qui est transmise volontairement, on choisit ce qu'on transmet. Et c'est là où la transmission devient vraiment intéressante et devient qualitative. C'est qu'on va choisir, j'aimerais vraiment, maman, papa ou grand-père, grand-mère, que tu puisses me parler sur ce sujet, me raconter peut-être ta vie quand tu étais jeune, comment tu as vécu ça, comment tu as traversé cette épreuve, ou qu'est-ce que Dieu t'a enseigné dans telle ou telle situation. Quand c'est une transmission volontaire avec deux personnes qui choisissent en fait d'échanger et puis de se transmettre de l'information de qualité, ben ça évite justement peut-être qu'on reproduise bêtement les choses négatives qui nous ont été présentés dans notre vie, parce que comme je le dis, la transmission va se faire de toute façon. Donc quand il y a un choix, une vraie disposition de cœur, on peut transmettre les bonnes choses et on se retrouve avec un cœur qui est réceptif, qui est à l'écoute, et c'est tout bénéfique en fait des deux côtés, parce qu'il y a énormément à apprendre. Pourquoi reprendre les mêmes mauvais chemins que peut-être nos parents, nos grands-parents, alors qu'ils l'ont pris, ils ont dit bah non, là, attention, il y a un énorme trou. Hop, si j'allais voir s'il y a un trou, hop, on tombe dans le trou. Bah, si on peut juste éviter, c'est vraiment c'est tout à notre avantage en fait. Et notre verset du jour est dans 1 Pierre au chapitre 5 et au verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Attendez, écoutez la suite. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Et c'est les rapports mutuels, je pense que c'est la clé de ce verset. Oui, il y a une soumission aux anciens. On leur doit le respect, c'est une autorité, une forme d'autorité dans notre vie, mais le respect doit être mutuel, la reconnaissance doit être mutuelle, et comme on l'a dit hier, on ne méprise pas la jeune génération a besoin d'être respectée, c'est un besoin qu'elle a, et ainsi les jeunes vont aussi beaucoup plus facilement respecter les aînés, et quand on est dans ce rapport mutuel, il y a un équilibre qui s'installe, et comme je le disais tout à l'heure, c'est tout à notre avantage des deux côtés en fait.
Ouais, et je crois que souvent, la jeune génération va se dire « je vais faire mes propres expériences ». Et souvenez-vous, en fait, qu'on vit qu'une seule fois. Et vous n'êtes pas obligé de passer dans la vie par essai-erreur. Essai-erreur, parce que, on dit dans un certain proverbe que à force de dire « je ne veux pas écouter », tu vas te retrouver au village de « si je savais ». Et « si je savais », généralement, ce sont nos aînés. Et souvent, écouter, juste au moins prendre le temps d'écouter, au lieu de tout balayer du revers de la main. Aujourd'hui, dans ma propre vie, il y a beaucoup de choses. Souvent, je raconte à mon frère, à mon père, les anecdotes avec les enfants, puis il est mort de rire, parce qu'il me dit « tu m'as fait passer par la même chose ». Voilà, aujourd'hui, dans le ministère, voilà, j'arrive, il n'y a pas un manuel. Mm-hmm. Et souvent, c'est « ah, comment est-ce que mon père faisait ? Dans telle situation qu'il a eue, comment il va résoudre ça ?» Alors, ça devient un repère pour nous dans les temps difficiles. Donc, j'aimerais vraiment vous encourager et ceux qui doivent transmettre et ceux qui doivent recevoir. Ceux qui doivent transmettre doivent respecter et honorer ceux qui reçoivent. Oui. Mais ceux qui doivent recevoir aussi doivent se mettre dans une attitude pour dire « je ne sais pas tout » et même si je sais, un peu plus de connaissance n'a jamais tué personne.
Mmh. Et comment... moi, je vais me placer dans la position de la jeune génération.
Bah oui.
Moi, je vais me mettre dans ceux qui enseignent. Voilà.
Exactement.
Mais, Annabelle, écoute.
Je ne parle pas du coup. C'est que On doit montrer à la génération des aînés, et quand on dit des aînés, c'est pas forcément des gens qui ont 40 ans de plus que nous, parfois c'est des gens qui ont déjà fait quelques pas de plus que nous. Alors il peut y avoir différentes sortes d'aînés, mais quelqu'un qui a été maman avant toi, puis qui a des enfants qui ont 5 ou 6 ans, bah, ils sont déjà passés par la grossesse, la maternité, donc quelque part c'est des aînés. Après t'as l'aîné aîné qui est la grand-mère, bon voilà, il y a différentes sortes d'aînés, mais en tant que jeune génération, c'est de communiquer à l'autre génération, bah, je ne sais pas tout. Parce qu'en fait, on a l'impression quelquefois que ce sont les aînés qui ne veulent pas nous transmettre quelque chose, mais ils peuvent sentir qu'ils n'ont pas d'accès. Oui. Et lorsque nous, on leur dit, mais en fait, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de savoir, ça donne à l'autre l'opportunité. Et je crois que ça se perd de plus en plus parce que les générations on se comprenne pas. La plus vieille génération croit que la plus jeune génération ne veut pas les entendre parler parce qu'ils sont trop vieux. Et la jeune génération se sent jugée et méprisée. Du coup, ils ont de l'appréhension à entendre ce que la génération plus vieille a à dire. Plus vieille, plus expérimentée à dire. Et quand on est dans cette jeune génération, bah, il faut savoir le dire, ouvrir la porte. Bah, parle-moi. Et en fait, ça va tout de suite faire tomber certains murs, certains clivages, parce que quelquefois, les aînés arrivent avec beaucoup de « wow, wow », parce qu'ils pensent qu'ils arrivent dans un terrain hostile. Et on a besoin de montrer, oui, de l'humilité et de dire et d'ouvrir la porte. Et on n'a pas l'impression, quelquefois, qu'on est dans la jeune génération, que c'est à nous d'ouvrir la porte. Mais pourtant, je vous invite vraiment à le faire. Quand vous êtes avec des aînés, ouvrez la porte et dites-leur bah, « parle-moi, dis-moi, posez des questions, parce qu'ils se sentent peut-être pas accueillis dans votre vie parce qu'ils ont l'impression que vous ne voulez pas les entendre. » Et le fait de le dire, ça va vraiment faire descendre, c'est un peu cette tension qu'il peut y avoir.
Oui, puis on peut être surpris de ce qu'on découvre. Moi, quand j'étais à l'école secondaire, j'ai dû faire à un moment donné un interview d'une personne qui avait vécu la période de la guerre. On sait qu'en Suisse, la Deuxième Guerre mondiale n'a pas forcément frappé fort, mais dans la région où j'habite, on est à la frontière française et il y a eu des conséquences quand même. Et en fait, je ne savais même pas que ma grand-mère, avait expérimenté vraiment des moments difficiles. Et en fait, je l'ai choisie, elle, pour aller l'interroger. Alors, la sortie des albums photos, j'ai passé 2-3 heures avec elle, elle m'a raconté toute son enfance, toute cette période de guerre, j'ai appris qu'un obus était tombé à côté de sa maison mais n'avait jamais explosé, j'ai dit wow, Seigneur, t'as gardé ma grand-mère, et en fait mon regard sur elle a énormément changé après. Jamais dans un contexte de repas de famille ou autre, elle m'aurait raconté tout ça parce que c'était quand même assez personnel, mais le fait de m'être assise avec elle et de lui avoir dit bah, raconte-moi ton enfance, j'ai appris tellement de choses, vraiment mon respect pour elle a changé, la relation que j'ai eue avec elle qui était assez superficielle à changer, et ça a ouvert vraiment la porte à ce qu'elle puisse m'enseigner des choses. Donc je rejoins totalement ce que tu dis, allons les rencontrer, je parle là des grands-parents, mais peu importe, effectivement un aîné c'est quelqu'un qui a quelques années de plus, et posons simplement des questions qui vont donner ce droit de parole, cet accès pour pouvoir recevoir de la connaissance. Après on fait le tri. On sait, hein, on peut nous transmettre des choses qui sont bonnes et des choses moins bonnes. On fait le tri, mais au moins, on a l'opportunité de recevoir quelque chose qui nous sera utile, finalement.
Ouais, et en fait, je reviens sur notre thème. C'est de transmettre la connaissance ou l'expérience et non d'imposer. Et souvent, là où ça ne marche pas, c'est là où on vient et on dit aux petits jeunes, bah, « Toi, tu sais rien. Nous, dans notre temps, c'était meilleur, etc. » Vous savez, la fameuse classique du parent qui dit « Moi, j'étais toujours premier de classe jusqu'au jour où on découvre son diplôme, un de ses bulletins scolaires, puis on se rend compte que ce n'était pas la réalité. » Mais si on vient pour transmettre, je crois que des deux côtés, nous devons créer un climat favorable pour que ça soit reçu. Celui qui vient ne vient pas pour imposer, mais vient pour, donner un avis basé sur son expérience, puis il dit « c'est mon expérience ». C'est lui qui reçoit, reçoit en disant « j'écoute au moins, je trie ce qui est bon et j'adapte ce qui m'a été dit à mon contexte, à moi ». Et on le voit beaucoup dans le domaine des relations, parfois un jeune homme va venir avec une jeune fille, juste à regarder, on dit « ça là, c'est une catastrophe ». Et puis quand on essaye de leur dire « c'est non, c'est mon histoire, je vais faire mon expérience », puis l'expérience que tu as voulu vivre va t'accompagner parfois toute ta vie.
Ouais. Effectivement. Avant de passer à ta rubrique famille, parce que là, je te sens prêt à embarquer, je vois ça, j'osais pas le dire. J'ai une citation de Billy Graham, qui, lui, vraiment, a été un aîné pendant longtemps et a enseigné beaucoup de monde. Il a dit « Le plus grand héritage que l'on puisse transmettre à ses enfants et ses petits-enfants n'est pas de l'argent ou d'autres choses matérielles accumulées dans sa vie, mais un héritage de caractère et de foi. » Et je dis vraiment « Amen ». Si vraiment les aînés, les plus anciens peuvent au moins transmettre un héritage de caractère et de foi à la génération suivante, c'est tellement précieux et ça en vaut tellement la peine. Puis on va voir avec toi, Omer, maintenant, comment, en tant qu'aîné que tu es, pardon, nous pouvons...
Aîné dans le sens de sagesse.
Exactement. Nous pouvons transmettre à la plus jeune génération notre savoir. On enchaîne avec la rubrique famille.
Alors, nous commençons avec la parole de Dieu pour répondre à cette question, quand et comment transférer son savoir en tant qu'aîné. D'abord, j'aimerais commencer par dire que c'est un privilège d'être un aîné et d'être quelqu'un qui a expérimenté des choses et d'être dans une position où l'on peut transmettre. Dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 15, Paul dit à Timothée, « De ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Et Paul ira plus tard pour dire à Timothée pourquoi il connaît ces lettres, parce qu'il a reçu l'enseignement de sa mère et de son aïeul Loïs. Donc, il y a eu des personnes qui ont créer un climat dans lequel Timothée pouvait recevoir. Et j'aimerais dire à nos aînés, à ceux qui sont expérimentés, que vous n'êtes pas inutiles. C'est vrai que la société semble vous mettre dans une position où on met les personnes âgées de côté, on met les personnes d'un certain âge de côté, mais j'aimerais vous dire que vous avez des trésors à transmettre. Ces trésors ne sont pas simplement vos réussites, c'est aussi vos échecs, parce que vos échecs peuvent faire aussi qu'une personne évite de répéter les mêmes erreurs parce que l'on peut changer le monde, on peut changer la technologie, mais l'être humain reste toujours l'être humain et l'être humain est toujours en relation avec un être humain, donc on produit toujours les mêmes résultats. Alors, vous êtes un trésor, vous avez des trésors en vous que vous pouvez transmettre. La deuxième des choses, c'est que vous avez de la connaissance à transmettre et vouloir transmettre cette connaissance de façon équilibrée, avec humilité et grâce, en fait, c'est une marque d'amour envers la génération qui monte. Que ça soit dans l'Église, que ça soit dans la société, lorsque nous sommes animés de ce désir, c'est une marque d'amour, une manifestation d'amour envers cette génération-là qui monte, pour qu'ils n'échouent pas, pour qu'ils ne puissent pas répéter les mêmes erreurs. Car d'une génération à l'autre, les erreurs ne doivent pas se répéter, mais on doit s'améliorer, on doit devenir meilleur. Et aussi, le fait de vouloir transmettre cette connaissance, eh bien, est une action, en fait, qui sécurise la prochaine génération. Elle grandit dans l'Église avec sécurité, elle grandit dans la société avec sécurité, tel que, en fait, vous voyez, le livre de Proverbes, en fait, c'est vraiment un livre qui a été écrit pour transmettre la connaissance, pour que la prochaine génération soit équilibrée et qu'elle ne commette pas les erreurs, soit de la génération précédente ou les erreurs que la génération précédente a vues. Ouais. Le livre de Deutéronome est un livre qui est écrit pour une génération qui va entrer dans le pays promis. Pourquoi ? Pour qu'il ne répète pas les erreurs de la génération précédente. Alors, lorsqu'on regarde même la parole de Dieu elle-même, c'est un livre de transfert de connaissances. Toute la société des Hébreux dans la parole de Dieu, en fait, a été une société de transfert de connaissances pour éviter que les erreurs puissent être répétées. Alors, vous avez des trésors. Dieu vous met dans une position où vous pouvez influencer la prochaine génération en les aimant assez pour transmettre la connaissance, en les sécurisant par vos expériences, par ce que vous avez vécu. Et vous n'avez pas pour cela besoin d'être un professeur d'université tel que vous êtes. Vous êtes un trésor ambulant. Alors, quand transmettre la connaissance, idéalement, c'est bien de transmettre la connaissance pendant, dès l'enfance, en fait, parce que c'est là qu'on peut bâtir des ponts, une relation de confiance. C'est pour cela que Paul dit à Timothée, dès ton enfance, tu connais les Saintes Écritures. Mais comment les a-t-il connues? Au travers de sa mère, au travers de son aïeul, Timothée a pu recevoir les Écritures. Alors, dès que l'enfant est petit, ne le méprisez pas. Parfois, on a l'impression que nos enfants ne nous écoutent pas, ils ne nous écoutent pas. Mais en fait, la connaissance demeure en eux. Alors, c'est dès l'enfance. Alors, il y a 4 types de connaissances que l'on peut transmettre. La première connaissance, c'est la connaissance identitaire. Ça, c'est la première connaissance. Dans Deutéronome, chapitre 6, le verset 20, le Seigneur dit « Lorsque ton fils te demandera un jour que signifient ces instructions, ces prescriptions, les règles de l'Éternel, que l'Éternel, notre Dieu, vous a données. » Le but de la connaissance identitaire, c'est de donner un sentiment d'appartenance. Et dans ce texte ici, Dieu donnait à Israël la loi, car le but de la loi n'était pas simplement la sainteté, mais c'était de former un sentiment d'appartenance à la nation, de former un sentiment, l'identité de la personne était liée à l'ensemble des lois, des coutumes. Et Dieu dit ici à Israël qu'il va arriver un temps où l'enfant va observer et l'enfant va poser des questions. Et c'est là qu'on dit à l'enfant, c'est parce que nous ne sommes pas comme les autres nations, nous ne sommes pas comme les autres familles, nous sommes une famille chrétienne, parce que nous faisons ça, parce que Jésus est mort à la croix pour nous. Donc dans la connaissance identitaire, nous renforçons l'identité de l'enfant pour que l'enfant puisse aimer la famille, aimer aller à l'église, aimer les choses, les valeurs familiale. Mm-hmm. Deuxième type de connaissance que nous transmettons une fois que nous avons assis la connaissance, transmis la connaissance identitaire pour que l'enfant sache qui il est. Voilà. La deuxième, c'est bien transmettre la connaissance disciplinaire. C'est là qu'on veut former le caractère de l'enfant pour que l'enfant apprenne, par exemple, que le mensonge n'est pas une bonne chose, de respecter les règles, de respecter les instructions. C'est là qu'on le transmet. Voilà pourquoi dans Galates chapitre 2, chapitre 4, le verset 2, Paul dit qu'ils étaient mis sous des tuteurs. L'enfant est mis sous un tuteur jusqu'au temps appointé par le père. C'est là qu'on travaille le caractère de l'enfant. C'est là qu'on dit à l'enfant, tu sais, tu ne dois pas voler, parce que je connais un jeune homme, je connais quelqu'un qui a volé, ou bien moi-même j'ai volé. Voici les connaissances que j'ai eues. Le but ici, c'est d'emmener, que le caractère puisse former. Là, on travaille sur des choses en particulier. Là, l'enfant commence à avoir peut-être 9 ans, 10 ans. Le caractère s'est déjà développé. Il connaît la famille à laquelle il appartient. Mais maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'il apprenne à délaisser certaines choses parce qu'elle aura des conséquences. C'est là que l'enfant se retrouve peut-être seul à l'ordinateur. Et on lui dit, pourquoi il ne devrait pas aller sur le site pour adultes? Dites-lui que vous avez été vous-même. Dites-lui les conséquences que ça a eu sur vous. C'est là maintenant qu'on transmet la connaissance disciplinaire. La troisième, j'aimerais parler de la proximité. Pourquoi? Parce que l'enfant apprend maintenant en observant. Parce que là maintenant, il a du discernement. Il a du discernement et j'aime ce texte de Genèse chapitre 22, le verset 8, où on dit que Isaac et puis Abraham marchaient ensemble sur le chemin de la montagne. Et à la montagne, Isaac va poser une question. Il va dire, mon père, nous avons le bois, mais il n'y a pas de bélier. Comment Isaac savait-il? C'est parce qu'il avait appris à observer son père. Et souvent, en tant que parents, nous restons mystérieux pour nos enfants. Nos enfants, nous restons mystérieux. Mystérieux sur notre passé, mystérieux sur notre présent. Nous avons créé une telle distance que l'enfant ne peut pas apprendre ou l'apprenti ne peut pas apprendre par la proximité. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, nous devons faire l'effort d'en faire notre ami pour qu'il apprenne par cette proximité à nous voir réagir dans certaines situations et même lui permettre de poser des questions. Mais pourquoi tu as fait comme ça? Et là, maintenant, on peut lui expliquer. Voici pourquoi je fais. Donc, l'enfant, cette proximité fait que la connaissance va beaucoup plus se transmettre. Et la dernière que j'aimerais citer ici, et vraiment, je les cite dans l'ordre dans lequel ils devraient paraître, parce qu'au fur et à mesure que l'enfant grandit, au fur et à mesure où l'enfant ou la personne que nous avons sous nous le neveu grandit, eh bien, au fur et à mesure qu'il est assez mature maintenant pour supporter ou pour comprendre certaines choses. La dernière, c'est la connaissance expérimentale. La connaissance expérimentale, eh bien, on estime que la personne est maintenant un adulte. C'est un adulte qui est capable de comprendre. Donc, on peut maintenant se dévoiler dans une certaine nudité, nudité de caractère. Hein.
Oh, c'est certaine bien précisé.
Nudité, je précise très bien, qui va nous permettre maintenant de donner le dernier niveau de connaissance. Dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 10 à 11, Paul dit ceci à Timothée, et on retient que Timothée est déjà un pasteur, donc c'est un adulte, c'est un mature dans la foi, et Paul est dans son vieil âge. Paul dit, « Mais toi, tu as pu observer mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, mon endurance. Tu as pu voir quelles persécutions et quelles souffrances j'ai endurées à Antioche, à Icône, à Lystre. Quelles persécutions, en effet, n'ai-je pas suivies et chaque fois, le Seigneur m'en a délivré. Mmh. » Par la connaissance expérimentale, il vient un temps où, en tant que parents, on doit parler à nos enfants de ce qui nous a fait mal, de nos échecs, des détours de la vie, parce que l'enfant maintenant, ou la personne qui apprend de nous, étant devenu adulte, va maintenant commencer à vivre ça. Parlez-lui des collègues du travail qui vous ont peut-être fait un mauvais coup. Parlez-lui de votre relation avec peut-être un patron qui a été difficile. Et c'est là maintenant qu'en fait, on donne le paquet maintenant à quelqu'un qui est devenu un adulte. On doit lui dire la vérité. On doit lui expliquer peut-être, tu sais, tu étais petit, je n'ai pas pu t'expliquer, mais si je, dans la famille, tel et tel ne se parle pas, voici vraiment ce qui est arrivé. Mm-hmm. Et tout le long de la parole de Dieu, on retrouve ça. C'est pour ça qu'on dit que Noé était nu dans la tente. Ce n'est pas dit à des enfants, c'est dit à un adulte, c'est dit aux adultes. Il y a toutes des expériences. On raconte David qui est tombé dans l'adultère. Ce n'est pas dit pour diminuer David, mais c'est dit pour prévenir les prochaines générations des dangers de l'adultère. Salomon, qui a eu 1000 femmes, ce n'est pas dit pour diminuer Salomon. C'est dit pour prévenir des dangers de la polygamie. Alors, j'aimerais vraiment vous encourager. Vous avez un trésor à transmettre.
Merci, Omer. Merci beaucoup. C'était super bien construit, ta rubrique famille. Hein. Honnêtement, on sent la préparation, là. On sent la préparation, sincèrement. Sincèrement, merci beaucoup. Quand je t'écoutais, je me disais, c'est fou, parce que ça paraît évident, en fait, cette transmission. Ça devrait se faire naturellement. Mais quand on voit au jour le jour, au quotidien, on réalise que ce n'est pas naturel pour tout le monde. Et puis parfois, il y a cette mentalité de vouloir cacher ses erreurs, cacher tous les faux pas qu'on a fait, puis donner une apparence à nos enfants ou aux plus jeunes qui nous regardent de perfection toujours. Et vraiment, j'avais à cœur de vous encourager à être sincère avec vos enfants ou avec les plus jeunes que vous encadrez, même si vous êtes leader de jeunesse. Vous pouvez être sincère sans forcément aller dans tous les détails, selon l'âge, effectivement, on adapte le type de connaissances qu'on transmet. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir l'air parfait. Vous pouvez être sincère et montrer que vous aussi, vous avez eu des faiblesses, vous avez eu des moments de doute, des moments difficiles, mais que malgré ça, vous êtes resté attaché à Dieu. Malgré ça, vous avez fait confiance à Dieu. Malgré ça, vous avez choisi de revenir sur le droit chemin. Et c'est aussi un enseignement. Vous ne savez pas comment ça va pouvoir être utile, toucher le cœur d'un plus jeune qui, lui, a peut-être besoin d'être rassuré et de se dire, en fait, c'est pas parce que j'ai fait un mauvais pas que je suis disqualifié. Je peux revenir parce que lui, je vois qu'il est vraiment attaché à Dieu. Elle, je vois qu'elle a su remettre sa vie en règle. Et c'est vraiment important de pouvoir être transparent avec les plus jeunes. Merci à vous deux. On se retrouve demain. Je vous rassure, on arrête de parler des générations, mais on va parler de croissance spirituelle. Demain, nous allons mesurer notre croissance spirituelle. Vous allez voir que l'outil de mesure est assez simple, mais très important. Donc, on en parle demain. Merci de nous avoir suivis. Et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.